Radio Alliance Plus. Parole aux associations.
Bonjour à toutes et à tous, Didier au micro de Parole aux associations. Et nous nous revoyons aujourd'hui avec, je reçois, l'association France-Palestine Solidarité Nîmes, en la personne de Monique Chevalier. Bonjour Monique.
Bonjour, bonjour à vous.
Vous représentez cette association.
Tout à fait.
Et vous nous avez emmené quelqu'un, un invité, Abdel Fattah Aboursour. Bonjour Abdel Fattah.
Bonjour Didier.
Et vous, vous venez de plus loin par contre.
De la Palestine occupée.
Alors aujourd'hui, on va parler justement de cette association, mais surtout aussi de ce que vous faites. Alors, Abdel Fattah, vous êtes né en 1963, vous avez enseigné à l'université de Bethléem. Vous avez un panel assez important, chercheur, professeur donc à cette université, docteur en sciences biologiques et médicales, mais en France, c'est ça?
Oui.
Et puis surtout aussi peintre, écrivain, acteur et metteur en scène. C'est ce qui va nous intéresser un peu aujourd'hui. Alors, comment vous définissez-vous avec tout ça?
Je pense que je suis un artiste qui a mis son œuvre pour défendre ce qui est juste et ce qui est droit, pour donner aux jeunes, aux enfants, des possibilités pour s'exprimer dans les manières les plus créatives à travers l'art de la scène, l'art visuel, la culture, l'éducation, pour construire la paix en soi, pour pouvoir le construire avec les autres, sur des bases justes, etc. Mais aussi pour que ces enfants, ces jeunes, pensent vivre pour leur pays, et non pas juste être des chiffres sur des listes des martyrs ou handicapés pour les restants de leur vie ou périr dans les prisons israéliennes.
Oui,
sauver des vies, inspirer l'espoir.
Et le monde a cette tendance à avoir cette image-là, du... parce que vous travaillez donc au sein du camp d'Aïda, c'est ça, à Bethléem,
voilà.
Et en tant que fondateur et directeur du centre culturel Al-Rouad, c'est ça?
Al-Rouad, qui veut dire les pionniers en arabe, oui.
Alors en quoi, et vous-même, vous avez dans votre prénom, Abdel Fattah, si je comprends bien, c'est serviteur de Dieu en arabe, c'est ça?
Voilà.
Bah, vous étiez prédestiné alors.
Bah, je pense dans un sens, et puis le nom de famille c'est Aboursour, le oui. Père de la joie, donc
en
amener
plus,
un peu
alors,
de joie dans ce monde.
Donc tout ça, ça se ressemble bien alors.
Ça se ressemble bien parce que ça donne aussi une responsabilité vis-à-vis de ce qu'on peut faire dans le monde. Est-ce qu'on doit être juste un silencieux observateur ou un actionnaire dans un sens de créer un changement positif et constructif pour un avenir meilleur pour l'humanité entière. Quand on est dans un endroit, quand on est un artiste, quand on est un éducateur, prend sa responsabilité pour les générations qu'on va former et donner un avenir. Beaucoup de gens, quand ils voient la situation actuelle ou d'avant, on dit c'est désespérant. Et moi, je dis, on n'a pas ce luxe de désespoir. Ce n'est pas un héritage qu'on donne aux gens, aux enfants, aux générations à venir. Quand on attend que les miracles n'arrivent pas tout seuls. Il faudrait les provoquer. Et donc, on essaye de provoquer ces miracles. Et avec des gens comme les associations France-Palestine Solidarité et d'autres associations qui essayent de défendre ce qui est droit et ce qui est juste pour l'humanité entière, on ne peut pas rester silencieux et donner aux politiques et à tous ces groupes qui essayent de violer le droit de l'homme, qui essayent de violer le droit international, de dire « vous avez un pass pour faire ce que vous voulez ».
Alors ça doit être dur quand même, parce que vous êtes dans un milieu assez anxiogène. Enfin, je veux dire, il y a la guerre autour de vous, plus que la guerre, il y a des massacres.
Ouais.
Donc, et vous portez un espoir, non, de paix, ou à travers la culture de ce centre, c'est ça?
C'est une responsabilité, je pense. C'est une responsabilité de faire ce qui est mieux pour l'avenir. Ce n'est pas que pour les enfants palestiniens ou les Palestiniens, c'est pour là où il y a une injustice, une pression, une violation des droits de l'homme, une interdiction de liberté de parole. On se vante ici et ailleurs de liberté d'expression, mais cette liberté s'arrête et confrontée avec une barrière incroyable lorsqu'on essaye de critiquer ou de faire observer au monde ce qui se passe par l'occupation israélienne ou par les forces coloniales.
Alors ça ne doit pas être facile quand même, parce que vous êtes au milieu des bombes, non?
Il n'y a rien de facile dans la vie sous occupation.
Et comment ça se passe alors? Vous arrivez à avoir votre activité auprès des jeunes et par le théâtre ou la culture, c'est ça?
Il y a, par exemple, des difficultés quand on circule avec les spectacles, quand on circule avec les activités, même au niveau local. Mais je veux dire, moi, personnellement, je fais comme si l'occupation n'existe pas. Je ne mets pas ma vie en arrêt parce qu'il y a une occupation. Quand on a commencé à Rouad, quand on a construit, on a dit, ah, est-ce que vous n'avez pas peur que ça va être détruit? Bah, l'occupation détruit tous les jours. Et les gens reconstruisent encore, et à nouveau, et plus beau qu'avant, pour dire qu'on est là et qu'on va rester.
Alors le camp d'Aïda, il est au sein même de l'occupation, enfin du territoire.
Bah, disons que normalement, c'est dans le gouvernorat de Bethléem, normalement sous l'autorité palestinienne. Oui. Mais il y a une partie dans la zone C, dont compose 62% de la Cisjordanie, qui est sous contrôle administratif et sécuritaire israélienne. Mm-hmm. Et donc, il y a des incursions fréquentes. Le camp Aïda a été classé la zone le plus hautement exposée au gaz lacrymogène dans le monde dans une étude de l'Université Berkeley aux États-Unis en 2017. Et il y a des incursions fréquentes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrêtés. Et la plupart, c'est des arrêts administratifs. Arrestations administratives, donc il n'y a pas d'accusation. Il n'y a pas d'identification de ce qu'ils ont fait. Mais les Israéliens disent que ça peut présenter un danger, donc on va les emprisonner. Ça peut être 3 mois, 6 mois et renouvelable. Donc il y a des gens qui allaient vers 4 ans d'emprisonnement administratif comme ça, sans avoir une accusation claire et nette. Et donc dans un contexte comme ça, soit on se plie sur soi-même, soit on essaye de donner toute possibilité pour que ça n'arrive pas. Ce n'est pas une interdiction qui s'arrive, mais donner ces possibilités à travers la culture, l'éducation, l'art de la scène, l'art visuel, monter sur scène, jeter des pierres si on veut sur scène, être martyr sur scène, mais on ressuscite après le spectacle. Mais dans la vie quotidienne, ça ne se passe pas comme ça. Quand on est mort, on est mort. Quand on est emprisonné, on est emprisonné. Il n'y a pas de vie.
En fait, vous mettez en scène la vie de tous les jours dans ce camp et de ce qui se passe autour, non, c'est ça?
C'est pas seulement ça. Je veux dire qu'on essaye de parler des droits des enfants, des droits des femmes, de l'environnement, de la santé, de l'éducation, de tout.
Au sein d'un territoire occupé?
Bien sûr. Mais je veux dire, quand on nous parle des élections démocratiques, etc., c'est n'importe quoi. Parce que un gouvernement sous occupation, c'est comme le gouvernement Vichy en France, occupé par les nazis. On ne peut pas être libre de faire ce qu'on veut. Et le président, comme le petit soldat ou le policier, sont sous les ordres militaires d'occupation. Et donc c'est pour ça, parfois, les priorités internationales ne sont pas mes priorités. Je ne crois pas aux élections sous occupation, je ne crois pas aux élections politiques, etc., sous occupation. Mais je crois dans notre rôle de confronter cette occupation dans les manières les plus créatives, les plus pacifiques. Je ne suis pas dans le sens d'aller aux armes citoyens, mais je veux dire qu'il y a une résistance légitime contre l'occupation dans tout, selon le droit international, selon le droit de l'homme. Donc je ne peux pas condamner une résistance, parce que la résistance est légitime, mais je ne suis pas là pour promouvoir le choix seul de la résistance armée. Il y a beaucoup de manières. Et les Palestiniens, selon un livre de Dr. Mazen Koumsiya, un Palestinien chrétien de Beit Sahour, qui a nommé plus de 300 manières de résistance non armée en Palestine. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de manières de résister l'occupation. Et les Palestiniens ont maîtrisé ces armes de résistance sans utiliser des armes qui tuent.
Alors justement, comment vous sentez-vous? Vous sentez libre au milieu de tout ça, cette occupation, vis-à-vis des autorités palestiniennes, israéliennes? Comment vous vous situez ou comment on vous perçoit?
Je me perçois libre dans le sens de penser ce que je veux, d'essayer de faire ce que je veux.
Au sein de votre esprit
Au sein de mon esprit. Je ne peux pas m'interdire de faire des choses parce que j'ai peur que l'occupation fait ceci ou cela. Et je traite avec l'occupation quand je dois traiter avec l'occupation. Mais dans la vie au quotidien, on ne peut pas mettre notre vie en arrêt parce qu'on a peur que l'occupation. J'ai construit 6 étages dans une nouvelle construction d'Arouad. Et beaucoup de gens m'étaient fous.
Ah oui, parce que ça va être détruit, c'est ça? Oui.
Mais il y avait des incursions, elles ont détruit des choses, elles ont cassé des matériels, elles ont utilisé le centre pour tirer sur les gens aussi, malheureusement.
Ah oui.
Mais on renouvelle, parce que sinon, l'oppresseur gagne s'il arrive à nous empêcher de faire ce qu'on a besoin de faire. C'est des défis, oui, c'est des défis énormes. Il y a beaucoup de choses dans un monde comme ici ou ailleurs qui peuvent laisser tomber. Mais là, c'est soit on vit, soit l'oppression gagne pour nous arrêter de vivre. Et dans ce contexte-là, on ne veut pas qu'un enfant pense que c'est meilleur d'être mort parce qu'il n'y a rien qui n'est fait pour eux. Mmh. Aucun parent dans le monde ne veut voir leurs enfants mourir.
Bien
on
sûr.
Doit voir les enfants grandir, célébrer leur vie et leur succès, et c'est leur donner toute possibilité pour grandir et célébrer cette vie et ses succès. Quand le temps vient, j'espère que c'est eux qui marchent dans nos funérailles et non pas l'inverse.
Alors justement, vous êtes né donc à Bethléem, dans ce territoire qui était déjà occupé, c'est ça?
Oui.
Et vous en êtes venu à créer ce centre culturel. Quelle a été votre démarche pour... parce que vous avez fait, bon, je vous ai dit tout à l'heure, un doctorat en sciences biologiques et médicales. Donc vous avez abandonné une profession pour pouvoir vous consacrer à...
Disons, donc, pendant mon enfance, j'écrivais de poésie, oui. Comme des petites histoires, des petites scènes, et je faisais la peinture.
Vous avez une âme poétique, alors.
Voilà.
C'est ce qui vous permet peut-être de vivre au milieu de ce chaos, non?
Mais évidemment, ça c'est un relâche énorme que... pour construire la paix en soi, être en paix avec soi-même. Mais j'aimais la biologie aussi, donc ce n'était pas un sacrifice. Mais je pense qu'en Palestine comme ailleurs, si tu dis à tes parents « je veux être un artiste », etc., fais oui. quelque chose pour que tu gagnes
c'est
ta
vrai.
Vie, et après
oui.
on te pense ce que tu veux. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse, de continuer mes études en France, où je suis resté 9 ans. Et pendant ces 9 ans aussi, j'approfondis mon travail artistique dans le théâtre, comme acteur
D'accord.
essentiellement. Et à mon retour, et ça c'était un autre défi, parce que beaucoup de monde me dit « Ah, pourquoi t'es rentré? T'es fou, il faudrait avoir la nationalité, il faudrait ceci ou cela. » Mais si je restais en France, et j'aime beaucoup la France, mais si je restais en France, je donne l'occupation à ce qu'elle veut.
D'accord.
Que les gens
oui,
partent.
Je comprends. Donc vous êtes allé en France pour passer les études et après
voilà.
vous êtes revenu.
Et pour revenir
voilà.
servir mon pays dans
voilà,
un sens.
C'est ça, d'accord.
Et là, je gagnais ma vie. Je faisais l'éducation et la recherche à l'université et je me portais bénévole pour enseigner le théâtre, la peinture, etc. Et en 1998, avec un groupe d'amis, j'ai fondé le centre Arouad parce que là, on travaillait à l'époque. C'était le centre de jeunesse où j'étais dans le conseil d'administration, mais qui était face à face avec le mirador littéraire d'élite israélien et les caméras de surveillance. Il y avait des incursions fréquentes. Et là, on a ramené tout le monde dans la maison de mes parents, en fait,
D'accord.
au milieu de camp, à la protection un peu. Et c'est là où, depuis 1998 jusqu'à 2005, quand on a commencé les tournées internationales, ça commence à prendre beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de valeur de travailler dans les arts que dans la science.
D'accord.
Et c'est là où j'ai décidé d'abandonner mon carrière comme
scientifique. C'était dans votre petit coin de la cervelle, pardon.
Voilà.
C'est ce que vous vouliez faire, quoi.
Voilà.
Alors, le temps passe, c'est le temps de notre pause musicale dans cette émission. Vous avez, et avant de parler dans la deuxième partie, on va revenir sur le centre culturel, sur les conférences que vous allez faire ici à Nîmes et puis ailleurs. Vous avez voulu qu'on le passe pour nos auditeurs, le trio Joubran, c'est ça? Et un morceau qui s'appelle Mazar, c'est ça? Je ne me trompe pas?
Oui.
Alors pourquoi ce choix?
Je pense que ça reflète une identité un peu des trios Joubran.
Oui. Et c'est un trio palestinien.
C'est des frères,
D'accord.
oui, de Palestine, et qui passent beaucoup de temps aussi en France et ailleurs, et qui sont pas mal
des concerts,
de concerts et d'accompagnement musical, comme avec Mahmoud Darwish, par exemple, quand il récitait ses poèmes,
D'accord.
et Marcel Khalifa, etc. Et donc, ils sont bien connus aussi
en France.
C'est
sur une musique orientale, comment c'est un orchestre, comment il y a plusieurs...
En fait, elle joue le oud, essentiellement.
Ah, le oud, ça, d'accord.
Les trois frères,
c'est ce qu'on va entendre
le
dans le...
Voilà.
D'accord. Eh bien, on écoute et on se retrouve après cette pause musicale.
Thank you.
venez d'écouter donc le trio Joubran-Mazour. Vous êtes sur l'émission Parole aux associations, Didier au micro, et je reçois Monique Chevalier de l'association France-Palestine
Solidarité
et Nîmes, c'est
Nîmes,
ça
voilà.
Et notre invité, enfin votre invité aussi, Abdel Fattah Aboussrour.
Bon. Excellent.
Alors, disons que ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir ce centre que vous avez créé. Il apporte un soutien aux réfugiés d'Aïda, mais pas que. Comment ça se passe? C'est pour les enfants, les adultes, c'est,
On a commencé avec les enfants, avec le camp Aïda. Je voulais que les enfants soient les acteurs sur scène et non pas faire de théâtre pour les enfants. Qu'elles soient juste passives.
Ils sont participants.
Mais qu'elles soient participants. Actifs sur scène, c'est eux qui sont dans l'importance.
Alors, ils évoquent leur vie, c'est
les
ça,
acteurs,
de réfugiés.
Voilà, oh. Ils parlent de leur vie. La première pièce qu'on a construite, ça parlait un peu de l'histoire de la Palestine. En commençant avec la déclaration Balfour en 1917.
Oui. Voilà, ça remonte à loin. Hein.
Et en passant par le Nakba, la tragédie, parlant de leur village d'origine et ce qu'ils sont devenus, les camps de réfugiés. La vie sous occupation, les checkpoints, et leur vie dans l'école, leurs aspirations, leurs rêves, et aussi ce que signifie la paix, dans un sens avec Oslo, etc. Donc c'était une pièce qui est un peu regroupée l'histoire avec des danses, avec les chants, avec de la musique aussi.
Vous pensez qu'il y aura la paix un jour dans ce territoire?
Moi, je crois qu'il y a toujours la paix.
Vous êtes optimiste, je crois.
Toujours. On n'a pas le luxe de désespoir, parce que sinon, ça tue l'humanité s'il n'y a pas d'espoir. Mais aussi parce qu'il y a des gens comme l'association France-Palestine Solidarité, comme il y a des groupes dans le monde qui protestent, qui n'acceptent pas les faits accomplis, qui n'acceptent pas l'oppression là où ça se passe, peu importe la nationalité
oui,
ou la religion, etc.
Hein.
On est contre les oppresseurs et on soutient les opprimés. Et on ne peut pas dire que ça passe ailleurs, parce que sinon, ça va frapper à votre porte un jour ou l'autre. Et si on accepte ça, l'oppression va augmenter. Donc, il est important qu'il y ait des groupes comme ça qui continuent à manifester, à écrire, à revendiquer qu'il faudrait qu'ils s'arrêtent, que le génocide s'arrête, que l'occupation s'arrête, que l'injustice s'arrête. Et donc, c'est pour ça. On a commencé avec le théâtre parce que je pense que le théâtre est un des moyens les plus beaux, les plus civilisés pour parler ce qu'on veut et pour dire ce qu'on veut, raconter son histoire, sa version de son histoire et construire la paix en soi, comme j'ai dit, pour pouvoir le construire ailleurs. Mais pas tout le monde veut faire le théâtre, donc on a ajouté la danse, la musique, la photo, les vidéos aussi pour être derrière les caméras, pas juste devant. Pour montrer la Palestine comme on la voit, comme on l'espère. Mais on ne peut pas faire un changement sans inclure les écoles, les jardins d'enfants, les parents, spécialement les femmes et les mamans. Parce que aussi, je considère que c'est les femmes qui changent le monde plus que les hommes. Donc, il était important de travailler avec tous les éléments de la communauté et aller au-delà de camps de réfugiés Aïda partout en Palestine, mais aussi à l'international. Pour donner à nos jeunes, à nos enfants, des possibilités de voir une vie normale dans des pays libres. Et indépendant, et voir qu'on partage beaucoup des choses comme des êtres humains, et ces similarités doivent nous rapprocher les uns les autres, et voir aussi qu'on a des différences. Et les différences sont le plus beau cadeau qu'on peut avoir, parce que ça permet de nous enrichir, et non pas nous marginaliser les uns et les autres, parce qu'on est différents de ceci ou de cela. Et dire que peu importe si on est musulman, ou chrétien, ou juif, ou bouddhiste, ou hindou, athée, quoi qu'on ait, il y a un accord sur le droit de l'homme, et la liberté d'expression et les valeurs humaines. Et c'est des valeurs qu'on partage tous comme des êtres humains. Donc, il n'y a pas de supérieur
et
inférieur. C'est un programme qui a beaucoup de défis avec tout ce qui se passe. Et donc, il faudrait s'attacher à cela.
Mais vous y croyez?
Toujours.
Alors justement, je voudrais revenir sur un texte, parce qu'en fait, vous, c'est la paix, c'est... vous voudriez que tout le monde vive en paix et tout, et vous êtes dans un pays qui est sans arrêt en guerre, et on vous amène toujours à condamner... est-ce que vous condamnez le terrorisme palestinien? Condamnez-vous le Hamas? C'est des questions qu'on vous pose souvent. Et vous avez écrit un texte qui s'appelle « Je me condamne moi-même ». C'est assez étonnant. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que on est, peu importe ce qu'on fait, on est regardé comme les terroristes, comme si on avait provoqué la guerre contre les Juifs, comme si on avait fait les camps nazis, comme si on était le promoteur de violence dans le monde, bien qu'on est la victime dans cette histoire. Que la Palestine était et restera toujours une terre de multiplicité et diversité, une terre d'inclusion et non pas d'exclusion. Les Palestiniens sont musulmans et chrétiens et juifs et beaucoup d'autres choses.
Religions, vous voulez dire.
Beaucoup d'autres choses. Donc on célèbre cette multiplicité et diversité. Donc quand on la veut exclusive pour les sionistes ou pour les juifs ou pour ceci ou cela, c'est une notion raciste qui ne colle pas à la culture, à l'histoire de la Palestine. Et donc peu importe toutes les actions. On a accueilli les Juifs quand ils étaient chassés de l'Europe, quand ils fouillaient le nazisme. C'était des gens qui étaient bouvres, qui étaient traités injustement. Et donc, on était avec ces minorités aussi qui venaient en Palestine. Il y a, si vous allez dans le quartier de Jérusalem...
Ça date de quoi, de la création de l'État d'Israël?
C'est même avant. C'est dans les années 30 et 40, etc. Et c'est pour ça... Quand vous allez dans la ville de Jérusalem, par exemple, la vieille ville de Jérusalem, il y a le quartier arménien, il y a le quartier africain, il y a le quartier chrétien,
il y a plein d'ethnies,
il y a le quartier juif, il y a le quartier musulman, il y a les coins afghans, les coins hindous, etc. Il y a plus de camps différents.
Il y a des églises, des mosquées, des synagogues, c'est ça.
Et donc ça, c'est cette Palestine. Donc quand on fait exclusivité de ça, ça ne colle pas. Ouais. Ce n'est pas les Palestiniens, ce n'est pas l'esprit des Palestiniens. Donc, on célèbre cette diversité.
Alors, vous appelez à la résistance pacifique par la culture et l'art, c'est ça? En résumé, et sous les bombes,
c'est ça? Et je pense, encore une fois, qu'il y a différentes manières de résister, que ce soit une résistance armée ou pas armée, c'est une résistance légitime contre l'occupation. La plupart des Palestiniens, plus de 90% des Palestiniens, n'ont jamais porté d'armes dans leur vie.
Et vous condamnez le terrorisme?
Je condamne le terrorisme dans ce sens de terrorisme. Tuer des innocents.
Oui, d'accord.
Mais pas une résistance armée légitime contre l'occupation.
D'accord.
Je condamne l'occupation avec tous ces crimes qu'elle est en train de commettre. Je condamne le silence international avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut de plus?
C'est une forme de terrorisme, le silence.
Bien sûr. Bien sûr, et les médias, donc je vous remercie pour votre mission, mais les médias aussi qui nous tuent avec cette déformation des choses. Mais on pose la question, est-ce que vous condamnez le Hamas? Mais est-ce qu'on condamne l'occupation israélienne?
Oui.
Est-ce qu'on condamne le viol qui continue depuis 78 ans et ça ne s'arrête pas et ça s'empire? Est-ce qu'on condamne les attaques de colons au jour le jour? Est-ce qu'on condamne le génocide qui a été commis pendant ces deux dernières années ou plus? Il y a des questions à l'inverse, malheureusement, qu'on condamne la victime d'un viol au lieu de condamner le violeur.
Alors justement, je voudrais revenir sur ce texte-là qui m'a interpellé, où vous dites donc je me condamne moi-même, et je lis trois phrases qui m'ont interpellé. Je me condamne moi-même, je condamne toute mon existence, je condamne ma propre naissance dans un camp de réfugiés dans mon propre pays et je condamne ma propre naissance d'être né palestinien. Alors qu'entendez-vous et quel message porte ce texte?
Car la Palestine n'existe pas.
Oui.
Quand on dit on est palestinien, quand on parle...
Alors voilà. Que beaucoup pensent que la Palestine n'existe pas.
C'est ça.
Je ne suis pas allé jusqu'au bout de la phrase.
Tout
exact.
À fait.
Quand on est en train de dire qu'il faudrait accepter qu'il y a une occupation et que ce soit légitime, que ce qu'on ne parle plus de notre histoire, de notre mémoire, de notre Nakba, de notre tragédie, pour faire bien avec les donateurs et les pays donateurs, etc., qu'on accepte... d'être dicté ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, sinon il n'y aura pas de moyen de donner espace à la vie des Palestiniens ou recevoir un visa ou partir ici ou partir de là. C'est ça. C'est nous tuer comme Palestiniens. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est Palestinien.
Bon, malheureusement, Abdel Fattah, le temps passe et vous êtes venu donc, vous avez fait une conférence le 30 avril. À Nîmes, vous allez faire d'autres conférences après celle de Nîmes ou vous repartez
Oui, en fait, aussi, j'ai fait le Albertville le 1er mai.
Ah oui, vous restez
mai,
une tournée en France.
À Lyon
tournée,
le 2e mai. Le 2 mai et le 4 mai pour Nogent-sur-Oise. Mais aussi, je continue ma tournée en Angleterre et en Irlande depuis le 5 mai jusqu'à 23 mai.
Je vous remercie d'être venu au micro de Radio Alliance Plus. Et c'est vrai qu'on a appris pas mal de choses sur ce camp de réfugiés et l'action que vous menez là-bas. Merci en tout cas. Merci aussi à vous, Monique Chevalier.
Merci à vous. Et il y a des actions humanitaires qu'on essaye de faire aussi avec respect et dignité pour les gens, pour casser cette image d'humanitaire déshumanisant. Et ça, c'est un autre défi aussi dans le contexte actuel.
Et surtout, bon courage à vous, parce que ça ne doit pas être facile.
Merci à vous.
Merci à vous.
On se retrouve dans une autre émission plus tard. Merci.